Eric, comme première petite question pour nous rappeler un petit peu quel est le rôle en quelque sorte du Shift Project.
Alors le Shift Project est une association d'intérêt général, c'est un think tank qui est bien français, mais on s'est dit qu'on pourrait avoir une ambition internationale. Ça a été fondé il y a 10 ans par Jean-Marc Jancovici, que beaucoup de gens connaissent ici, mais le Shift n'est pas Jean-Marc Jancovici. Voilà, c'est le président, c'est le fondateur, c'est l'inspirateur, mais il y a une équipe opérationnelle et un patron qui s'appelle Mathieu Ozano, qui est très bien d'ailleurs, et qui, par exemple, je donne un exemple, mais Jean-Marc est pro-nucléaire, le Shift ne se prétend pas pro-nucléaire, nous définissons, c'est pas notre sujet en fait, nous on est là pour définir quels sont les scénarios, pour décarboner la société, le nucléaire est un des petits sujets, mais pas le principal. Voilà, c'est important, parce que souvent les gens confondent. Et nous avons également, à côté du Shift, qui est un think tank financé par les entreprises, avec une quinzaine de permanents, donc c'est un budget à peu près d'1 million de par an, donc c'est des gens qui sont volontairement pas très bien payés, donc des jeunes HEC, des centraliens qui viennent, qui travaillent dedans et qui pourraient être payés 2 fois plus s'ils rejoignaient une entreprise. Il faut être très motivé, mais on a attiré énormément d'entreprises qui nous financent. Donc moi je suis un des financeurs à travers ma fondation, parce que moi en fait j'ai un passé de chef d'entreprise. J'étais 30 ans dans l'industrie de la chimie et des matériaux, et dont 20 comme patron aux États-Unis ou en Chine ou basé à Paris. Et par ailleurs, nous avons une association à côté qui s'appelle les Shifters. Alors pareil, les Shifters ne sont pas le Shift, mais c'est une armée de volontaires. Alors si vous avez des entreprises, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui sont Shifters. C'est-à-dire qu'ils ont rejoint, on a plus de 15 000 membres au Shift, enfin, pas au Shift Project, chez les Shifters plutôt, ça s'appelle les Shifters. Et pareil, ils ne sont pas le Shift, alors c'est une espèce d'armée de groupies qui font beaucoup d'évangélisation, qui rendent plein de choses, qui font des prestations gratuites. Par exemple, au Shift, on n'a pas de moyens, on n'a pas de plateau informatique, il y a plein de Shifters qui se proposent de faire le helpdesk pour nous, c'est assez génial. On a des gens qui font des relais à Bruxelles sur l'aspect juridique, c'est assez génial. Il y a des Shifters qui sont dans des grands cabinets juridiques qui nous rédigent des propositions d'articles de loi qu'on aimerait faire. Voilà, donc alors ils ne sont pas le Shift, par exemple, ils ont fait un partenariat avec France Info pendant les présidentielles, et France Info a cru bon de dire que Mélenchon était le candidat préféré du Shift et des Shifters. Alors, du Shift, certainement pas, parce qu'on est apolitique, mais c'est vrai qu'il y a parfois quelques Shifters qui étaient un petit peu mélenchoniste, bon, ça peut arriver. Donc, voilà, c'est un monde complexe, mais en tout cas, pour revenir au Shift, nous, notre propos, c'est de faire du lobbying, des études d'abord, et du lobbying pour construire une société décarbonée. Une économie décarbonée, voilà. Et d'ailleurs, pendant le confinement, puisqu'on a vu qu'il était possible tout d'un coup de réaligner une société pour combattre un problème qui était le virus, on s'est dit, ben voilà, en fait, il faudrait faire la même chose pour le problème climatique. Donc il faudrait venir avec un plan cohérent. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, donc, on est venu en disant, il faut qu'on construise un plan off the shelf, complètement cohérent. Alors on l'a pris à l'échelon de la France, d'abord pour des questions de moyens, parce qu'on n'a pas des budgets illimités. Deuxième chose, il fallait qu'on ait des bases de Shift incontestables, donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a pris en compte les aspects internationaux dans un certain nombre de sujets, par exemple l'industrie dont je m'occupais moi. Voilà, donc on a créé ce travail, qui est un travail gigantesque, qui a duré 2 ans et qu'on a publié. Alors on a sorti un livre, alors qui n'est pas la BD de Jancovici, vous la connaissez peut-être tous, la BD jaune de Blin, voilà, qui est un succès hallucinant, hein, mais qui n'est pas le Shift, c'est Jean-Marc et Blin. D'ailleurs, c'est Blin qui est allé voir Jean-Marc Jancovici pour dire « J'aimerais faire quelque chose sous forme de BD ». Et c'est un succès incroyable, je crois qu'ils ont dépassé les 500 000 exemplaires. Enfin, ça se vend pire, mieux qu'un Astérix, c'est exceptionnel. Et nous, on a sorti ce livre, sous l'instigation d'ailleurs de Mathieu Ozano, qui a dit « Tous nos travaux, nos rapports, on a fait une vingtaine de rapports au total, plus plein de conférences. Aujourd'hui, on les décline, on fait un portage du PTEF, sur le plan de transformation, je vais vous dire un mot après, les conséquences qu'il y a pour vous en termes de réflexion. Et on en est à plus de 90 000 exemplaires. Je crois qu'on devrait naviguer. On est chez Odile Jacob, hein, vers les 100 000. Ce qui est hallucinant, parce que c'est quand même pas du Harry Potter, hein, quand on voit la couverture. Le crise, virgule, climat, 2 points, le plan de transformation de l'économie française. Enfin, moi, j'ai fait le test chez moi, je l'ai mis sur la table du salon. Mes filles ne se sont pas précipitées dessus. Mais il se vend quand même. Il était même, je l'ai vu l'autre jour, dans une gare, au relais local. Ça, c'est quand même bon signe. Donc il s'est vendu, je pense qu'il est lu, parce qu'il n'est pas trop gros. Voilà. C'est pas comme Piketty, vous achetez un pavé de 400 pages, bon, Capital, voilà, moi je l'ai acheté, j'adore l'économie, mais au bout de 200 pages, j'ai un peu calé. Voilà. Ce plan, alors, petit mot sur mon parcours aussi, parce que moi en fait, donc, j'ai dit je suis un industriel, et je me retrouve un peu entre deux mondes, hein, un monde de gens qui pensent l'avenir, avec sérieux. Hein, le Shift est un think tank d'ingénieurs. Donc, la recherche, ça a des conséquences très pratiques. Par exemple, quand j'ai sorti mon premier rapport, je vous le dis, c'est une anecdote, mais c'est très important pour voir la philosophie qu'il y a derrière. Quand j'ai sorti mon premier rapport sur une industrie que je connaissais par cœur, la filière ciment-béton, qui est un des gros pollueurs partout dans le monde et en France en particulier, je suis allé très très vite, j'ai consulté plein de monde, mais je suis allé très vite dans mon rapport. Je l'ai amené, elle m'a dit « Ah non, mais t'as pas compris, il faut que chaque chiffre, chaque donnée soit étayée et on doit pouvoir cliquer sur le chiffre et retrouver la source directement. » Alors ça, c'est une démarche énorme. Je peux vous dire que j'ai mis 4 mois de plus derrière à reprendre tout mon rapport, à faire ce truc-là. Donc c'était, et ça a d'ailleurs modifié certaines conclusions, d'ailleurs, quand on... s'astreint à cette assaise un peu presque universitaire, c'est assez intéressant. Surtout moi qui étais un praticien, et je reste un praticien d'entreprise puisque je passe aujourd'hui 20% de mon temps au Shift, mais 80% je le passe via ma société qui fait de l'investissement, je suis business angel, et je suis au service de fonds d'investissement ou d'entrepreneurs dans les green tech. Donc je suis à la demande de fonds de private equity ou de venture, ou alors à la demande du management qui a des fonds et qui a du mal à gérer ses fonds. Et comme moi j'ai passé 20 ans avec des fonds en mon capital, je connais les avantages et les inconvénients. J'estime que les avantages peuvent l'emporter sur les inconvénients si on sait les manager. Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion et quelques conclusions qu'on peut tirer de ce travail sur le PTEF. Finalement, le problème, c'est d'avoir un plan cohérent, en fait. Et le plus dur, c'est pas de faire des rapports sur chaque filière, c'est de rendre tout ça cohérent. Alors, pour ça, on a fait deux grandes décisions qui doivent un peu vous guider en termes de réflexion, à mon avis. Et qu'on n'a pas quand on est patron d'entreprise, on est là, on est dans son couloir, on se dit « bon, faut que je fonce, il y a la concurrence, j'ai pas de temps à perdre ». Première chose, c'est qu'on a décidé de ne pas faire que des rapports techniques, on a fait des rapports sur des usages. Parce que finalement, pour arriver, quand on parle de sobriété, se décarboner, si on repartait des fonctions qui font notre vie, on a étudié des sujets comme décarboner la culture. Pas étonnant, mais décarboner la culture, ça veut dire quoi? Décarboner le cinéma, le théâtre, finalement, ça nous... Décarboner l'alimentation, ça veut dire quoi? Décarboner la santé. Oui, on a décarboné la chimie. Non, non. Prenons l'exemple de la santé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour décarboner la santé? Et ce travail était assez passionnant, en fait. Il a changé, même moi, j'ai une vision très technique, hein, je suis ingénieur, des choses, ça m'a totalement changé les choses. Par exemple, décarboner le festival d'Avignon, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire mettre des panneaux solaires partout, etc.? Ça veut dire passer à des plats véganes? Ben, je vous incite à aller voir le rapport, hein, qui s'appelle Décarboner la culture. Ben, décarboner le festival d'Avignon, si le festival veut être cohérent, par exemple, la première décision, c'est d'arrêter d'aller faire de la publicité pour le festival d'Avignon partout dans le monde, par exemple. Puisqu'une énorme partie des émissions sont le fait de 3% des visiteurs du festival qui, par leur déplacement, créent ces émissions. Voilà, donc on ne peut pas dire « je veux être un festival vert » et en même temps faire cette publicité partout. Il n'y a pas longtemps, je suis dans une université aussi, du moins on veut se décarboner complètement et on continue à vouloir faire des stages universitaires, par exemple en Australie. Non, c'est pas très compatible en fait. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc qui était vraiment très très instructif. Et le deuxième, qui était alors la plus grosse bataille et qui était un espèce de raccourci de ce qui va se passer, ce qui se passe en fait dans le monde, qui est la bataille pour les ressources. En fait, il y avait un pôle énergie, notamment, et ressources minières au Shift, des gars qui géraient des bases de données et des chiffres, qui jouaient le rôle un peu devant lequel il fallait se prosterner pour avoir de la ressource, pour pouvoir exécuter notre plan. Et moi, je vous donne un exemple, j'étais en charge de l'industrie, et le rapport que j'ai émis, qui était en fait 3 ou 4 rapports, qu'on a synthétisé dans un gros rapport, qui s'appelait « Peut-on décarboner l'industrie française sans la saborder ?» Parce qu'évidemment, c'est très facile de faire ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est-à-dire se désindustrialiser au maximum, parce que là, vos émissions chutent, et voilà. Et tout ce qu'on importe est ultra-carboné. Pour vous donner un ordre d'idée, l'empreinte d'un Français, c'est 10-11 tonnes par an, mais les émissions nationales qui sont liées à l'activité d'un Français vont être plutôt de 6 tonnes. Donc ça veut dire que la moitié de notre empreinte, elle est due aux produits importés. Pas étonnant, quand on fait 45 milliards de déficit commercial, effectivement, ça pose un léger problème. Et quand c'est fait en Chine ou en Allemagne, par exemple, c'est absolument considérable. Donc, et là, on a vécu cette bataille pour la ressource. Et par exemple, je voulais relocaliser la production d'engrais. Il se trouve qu'en France, on est une puissance agricole, mais nous importons 2/3 de nos engrais, d'autres, alors de pays du Golfe, mais aussi d'Allemagne, de Hollande. Pourquoi? Parce que c'est fait à partir de gaz naturel, les engrais azotés. Et je me dis, bon, si on peut passer à d'autres technologies, comme la technologie hydrogène, on parlera de l'hydrogène tout à l'heure, qui est un merveilleux intrant et pas un combustible extraordinaire, et pas un vecteur énergétique si génial que ça, mais un intrant, par contre, chimique extraordinaire, et on peut décarboner, par exemple, la production d'engrais en passant du CH4. C'est un monsieur allemand qui avait créé ça, hein. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est dit, comment on va soutenir l'agriculture allemande, puisque vous ne pouvez pas importer de guano. Il s'est dit, on va faire à partir du gaz naturel, on peut créer de l'engrais azoté. Je prends de l'air, je le combine, je chauffe très fort, mais ça émet beaucoup, beaucoup, beaucoup de CO2. Une tonne d'engrais azoté, c'est 2 tonnes de CO2. C'est pour ça que l'agriculture est très émettrice. Et là, on s'est battu pour les ressources. Et ben en fait, je n'ai pu que relocaliser la production, que décarboner la production locale est très peu relocalisée parce qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, hein, l'énergie primaire en France aujourd'hui, c'est 2000 TWh d'énergie. C'est énorme. Et il va falloir qu'on élimine tous les combustibles fossiles. C'est la seule condition d'ici 2050 pour qu'on puisse se décarboner. Il faut les éliminer tous à un rythme de au moins 5-6% par an. Pour y arriver, il faut les éliminer, il n'y a pas d'autre choix. Et pas que le charbon, qui est bien entendu la première cible. Et pour ça, il faut qu'on substitue par des énergies renouvelables. Et ben, dans le plan aujourd'hui qui a été validé par la France, c'est le scénario 3 de RTE, que vous connaissez sans doute par cœur, je vous incite à aller le voir. D'ailleurs, c'est un rapport qui est super, il y a un résumé. C'est aussi bien que les rapports du GIEC. Honnêtement, c'est fabuleux. C'est très bien expliqué avec tous les scénarios. Et comme l'électricité va être votre ressource numéro 1 de demain, comprendre d'où elle va venir, comment elle est faite, et quelles sont les marges de manœuvre, c'est essentiel. Vous avez un résumé pour décideurs, 20 pages, c'est super. Je vais le laisser traiter sur ma table de nuit ou ma table de salon pour si ma fille s'en empare. Mais comme il y a plus de couleurs, elles vont peut-être le prendre. Et en fait, il n'y a pas assez d'électricité pour tout faire. Voilà. J'avais besoin de 15 TWh de plus. Avec le scénario d'aujourd'hui qui dit qu'on va produire 650 TWh d'électricité avec les constructions de nouvelles centrales, et le ralentissement des fermetures des anciennes, on va monter à 650. Alors, il paraît qu'il y a des réflexions pour peut-être rajouter 50 à 100 TWh de plus chez RTE aujourd'hui avec EDF, mais ce n'est pas du tout validé. On ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va passer entre la production nucléaire, et même en rajoutant 50% on va produire à peu près 650 TWh d'électricité, et il y aura moitié-moitié entre énergie renouvelable et scénario de RTE. Nous, au chiffre, on s'est calé sur celui-là pour pas qu'il y ait de débat. Parce que les autres débats ensuite, c'est sur quoi je vais arriver après, c'est la nécessaire sobriété. Si vous dites qu'il n'y a pas assez de ressources électriques pour tout faire, ça veut dire qu'il va falloir faire de la sobriété. Et la sobriété, alors, nous, au chiffre, on est sortis du débat, est-ce que c'est décroissance, pas décroissance, définissez-moi la croissance, moi je suis passionné d'économie, ça devient compliqué. Nous, on dit la sobriété, c'est uniquement la baisse choisie des quantités physiques que vous allez consommer. Alors après, l'argent, tout ça, c'est hyper important, mais l'argent n'est qu'une convention. 3 minutes ? Enfin, 2 minutes, c'est un peu court. Donc, voilà. La conclusion de l'autre, donc, voilà. Et cette pénurie, cette bataille sur les ressources, c'est-à-dire des conflits d'usage, ça va avoir lieu sur l'énergie, qui est la numéro 1, et la deuxième, ça sera sur des ressources naturelles comme les métaux, etc. Pas besoin de... Le nickel, le cobalt vont être extrêmement disputés. On peut en trouver, mais ça va devenir cher. Et on voit bien, on l'a vu à l'été là, il n'y a pas que la chaleur, hein. Il y a les conflits sur les ressources qui rendent les choses très compliquées. La conclusion, c'est quoi ? C'est que la plupart des plans de boîtes, même des grosses boîtes, reposent sur toujours les mêmes histoires. Je fais du progrès continu, il faut en faire. Je vais faire du breakthrough et je vais faire du carbon capture. Le carbon capture, c'est je prends la fumée des usines, je fais du CO2 et je le réinjecte. Les cimentiers, par exemple, vont tous faire du carbon capture. Il n'y aura pas assez d'électricité pour que tout le ciment, toute la chimie, toute la sidérurgie passe au carbon capture. Il n'en aura pas assez. C'est très consommateur d'électricité. Donc un plan qui repose que sur le carbon capture, ça ne marche pas. Autre exemple, un plan qui n'est que sur la biomasse. Il y a plein de gens qui disent « moi c'est super, je passe à la biomasse ». Attention, la biomasse renouvelable, c'est une biomasse qui se renouvelle. Si on fait de la coupe rase, on peut appeler ça de la biomasse, mais ça n'en est pas en fait. Hein, la biomasse qui peut être comptée zéro n'est que celle qui est extraite d'une forêt qui est à l'équilibre en réalité. Donc, la plupart des plans reposent aussi sur la biomasse. Alors, je vais vous faire le... J'ai fait le calcul. Quand je prenais tous les plans de toutes les filières françaises et toute la biomasse dont elles se réclamaient, il fallait deux fois la biomasse française. Et c'est quoi? C'est soit des déchets agricoles, soit du bois. On va dire, moi, je vais aller prendre en Italie, en Espagne, en Allemagne. Mais non, ils ont le même plan. Hein. Ils ont exactement le même plan. Donc, ça veut dire que les plans ne sont pas exécutables. Et alors, moi, qui suis hyper technophile, parce que je le suis, hein, enfin, d'ailleurs, ma vie, je passe dans les green tech à essayer d'investir pour des fonds, etc. Donc, j'investis même à titre personnel de l'argent. La conclusion, c'est, pour décarboner l'industrie française, ça, le breakthrough scientifique ne suffit pas. Et il y a des pistes. Hein. Par exemple, la sidérurgie est une super nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ArcelorMittal, avec l'aide de l'État, mais ils ont pris l'initiative de passer à l'acier électrique, qu'on connaît déjà, hein, mais surtout à la voie hydrogène pour faire de l'acier. Vous savez, l'acier qui est dans votre automobile, c'est de l'acier plat. On ne peut pas le faire par acier recyclé. Et on peut, aujourd'hui, les hauts fourneaux émettent énormément de CO2. Et ben, on peut passer à l'hydrogène. Et là, l'hydrogène, c'est bien mieux de mettre là, d'ailleurs, dans des véhicules électriques. J'ai vu il n'y a pas longtemps une start-up qui s'est lancée, qui a d'ailleurs une commande de 10 000 véhicules de Crédit Agricole. Alors, c'était effrayant d'aberration. Il faut absolument qu'ils lisent les rapports du Shift. Le dernier endroit où il faut mettre de l'hydrogène, on peut le mettre dans des camions, mais pas dans des véhicules légers. C'est une aberration technique. Mais par contre, le mettre dans la sidérurgie, ça permettra de faire demain de l'acier totalement décarboné. Parce qu'aujourd'hui, une tonne d'acier automobile dans votre voiture, c'est 2 tonnes de CO2. Donc, on peut faire du breakthrough, l'hydrogène comme intrant extraordinaire, mais on n'échappera pas à la sobriété. Voilà. Donc la question, c'est quelle sobriété où on a fait des propositions, notamment, je vais terminer là-dessus, autant je suis assez optimiste sur l'acier, par exemple, on va pouvoir décarboner l'acier, je pense qu'on peut y arriver relativement facilement. La chimie, ça va dépendre. Les engrais, oui, d'ailleurs c'est une priorité, se nourrir. Vous savez que les ventes d'engrais, aujourd'hui, sont en baisse de 30% parce que le prix des engrais a doublé en un an. Vous ne le voyez pas, parce que nous, on voit le prix de nos pâtes, des légumes qui montent, les courgettes ne sont plus à 2,50€, elles sont à 4, voilà. Mais attention, dans 9 mois, quand il y aura les récoltes de l'année suivante, ça va être extraordinaire. Avec des intrants diminués de 30%, ça va être intéressant de voir quels sont les rendements. Voilà, donc ma conclusion, c'est il faut du breakthrough. Il faut de la technologie pour... sinon, on ne va pas y arriver. Si on ne fait pas, en ordre d'idée, on va terminer là-dessus, 40% de progrès continu pour arriver à décarboner de 80%, 40% de breakthrough, 20% de sobriété. Mais si on ne fait pas les 40% de breakthrough, et je ne parle pas de trucs qui font du rebond, je parle du breakthrough, genre dans l'acier, la sidérurgie, le ciment, la construction, si on ne fait pas les 40% de breakthrough, c'est plus 20% de sobriété qu'il faudra faire. C'est plutôt... 40% de sobriété. Dans ce cas-là, c'est plus le même monde. Là, c'est de l'appauvrissement pur et dur.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric.